Vous écoutez
RMC.
Est-ce que c'est plus facile de reprendre une équipe qui va mal ou une équipe qui va très bien et qui a déjà gagné? C'est ça aussi l'idée de cette question.
RMC jusqu'à midi.
C'est à moi que tu parles?
Oui, c'est à toi que je parle. Si j'ai le droit. Hein.
Les grandes gueules du sport.
Je peux
pas te le dire parce que repris des équipes qui allaient bien, ça te m'est jamais arrivé. Des équipes qui allaient mal.
Jean-Christophe Drouet.
Du grand Pascal Dupraz, évidemment, comme d'habitude dans les grandes gueules du sport. C'était sur notre débat à partir de 9h sur Zinedine Zidane. Toujours avec donc évidemment Pascal Dupraz, Christophe Sessieux, Jérôme Pinault, Simon Dutin. Dans quelques instants, ils sont inarrêtables. Les Marseillais n'en finissent plus de gagner et de se rapprocher du Paris Saint-Germain. Le titre est-ce juste un fantasme? C'est un 2 contre 2, le bras de fer des GG. On vous attend, supporters de l'OM, au 32-16. Je continue de jouer car je n'ai rien fait de mal. Yannick Sinner se défend encore et toujours juste avant le début de l'Open d'Australie, alors qu'il sera entendu en avril par le TAS pour son affaire de dopage. Sa suspension est-elle inévitable? Ce sera la punchline à 10h30. Et puis 10h45, les GG contre-attaquent. Mes grandes gueules, vous prenez les commandes de cette émission en nous proposant un débat. Vous allez proposer dans quelques instants mes priorités au direct. Hugo Gaston vient de se qualifier pour le deuxième tour de l'Open d'Australie. Eric Salio.
Oui, victoire en 4-7, 6-2, 3-6, 6-2, 6-2 face à une wildcard australienne, Omar Jasika. Prochain tour contre le vainqueur de Lechka, le Tchèque, tête de série 24, contre Tuli, un Australien. Et c'est parti aussi pour Hugo Humbert. Le Français mène 2-1 face à un Italien, Gigante, c'est sur le John Cain Arena.
Parfait, on va suivre tout ça avec toi évidemment. Deux Français déjà qualifiés pour le deuxième tour, donc Hugo Gaston il y a quelques instants et Arthur Fils, ça c'était cette nuit. Alors les GG contre-attaque, vous allez nous donner l'eau à la bouche. Mes GG, vous avez quelques secondes pour nous vendre votre débat. Christophe Sessieux, tu veux nous parler de quoi?
Moi je vais vous raconter une histoire extraordinaire, celle d'un marin du Vendée Globe qui a passé le Cap Horn et qui s'est retrouvé dans une situation incroyable. Sa voile est tombée dans l'eau et il a dû plonger dans l'eau avec une eau à 3-4 degrés pour essayer de se dépatouiller de cette voile. Franchement, se baigner au Cap Horn, il y a peu de gens qui l'ont fait jusqu'à présent. Je vais vous raconter son histoire.
Ok, si une histoire passionnante, évidemment.
C'est pas du tout un débat. C'est une histoire. Et le journalisme, c'est aussi raconter des histoires.
Bravo, Christophe. Bravo.
Pascal, tu veux nous parler de quoi?
Oui, alors moi j'ai été surpris cette semaine par l'annonce de Briatore concernant l'écurie alpine qui recrute Franco Colapinto. Or, ils ont déjà Pierre Gasly et Jacques Douane, et je me dis, est-ce un coup de maître ou est-ce la promesse d'une guerre énorme entre pilotes tout au long de la saison? Voilà, je voudrais qu'on en débatte.
Ok, la proposition de Pascal, vous pouvez aller voter sur le compte X des grandes gueules du sport. Simon Dutin.
Juan Román Riquelme, ancien numéro 10 de l'équipe d'Argentine et de Boca Junior, une légende du football, mais une sorte d'éloge de la lenteur, tu vois, un mec qui faisait tout à deux à l'heure, mais qui était un génie, a récemment eu l'occasion de dire que dans le 4-3-3 actuel, le football moderne, il aurait du mal à trouver sa place. Il est pas sûr qu'il aurait brillé comme il y a 20 ans. Alors du coup, je m'interroge sur la place des artistes dans le sport actuel du très haut niveau, où sont les Federer et autres génies du sport. Est-ce qu'il y a encore une place pour les mecs qui ont un talent hors norme, mais pas forcément les mêmes aptitudes physiques que leurs compères.
Ok, les artistes peuvent-ils avoir leur place? C'est la proposition de Simon Dutin. Jérôme Pinault.
Et ben moi, à l'occasion du redémarrage de la saison, et oui, ça repart déjà en Australie.
Le vélo, j'imagine.
Le cyclisme, évidemment, on va parler d'un sport mineur, hein, parce que
oui, moi aussi,
continue,
j'adore
moi, tu sais. Et donc, je me pose la question, et j'ai envie de vous la poser, avec le gros recrutement, les budgets qui explosent, les réactions de certains managers, dont notre ami Marc Madiot. Est-ce que les équipes françaises font-elles encore partie du gratin mondial? J'ai envie de me poser cette question-là. À quoi peut-on s'attendre de la part de nos équipes françaises? Je suis assez inquiet, donc j'ai envie d'avoir l'avis de tout le monde.
Vous en parlerez dans Grand Plateau, le podcast de référence.
Évidemment, dès demain.
Je vais peut-être voter pour toi, moi,
dès
finalement.
Demain. Bon, on verra. En tout cas, vous avez jusqu'à 10h45 pour voter. Merci beaucoup pour vos propositions. Les GG, on va débuter cette nouvelle heure avec cette citation d'Elisabeth Carly qui a dit un jour, un fantasme assouvi est un rêve déchu.
RMC. Le bras de fer GG.
C'est un petit peu brouillon offensivement du côté de l'Olympique de Marseille et côté Rennais. Attention avec le ballon perdu par les Marseillais.
Allô Marseille, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas d'image sur mon récepteur de contrôle.
Et dédoublement de Darsignon, c'était Ludovic Blaskever qui se perd. Calimando, la but. La penalty avait été arrêtée par Rouli, mais celui-là, il est bien au fond. Sur la droite, en retrait.
C'est important le titre. Hein. Ça donne envie ou ça donne pas envie?
Slip, la célébration de Mason Greenwood devant le COP
marseillais.
Je crois que c'est Night.
Faut pas se tromper.
Ah, c'est Night.
Slip, c'est nous ce soir, ça, Xavier. Doem à l'attaque avec Mason Greenwood sur le côté droit, le numéro 10 anglais qui va repiquer dans l'axe. Le ballon deuxième poteau pour la tête de Rabiot. La lucarne d'Adrien Rabiot. C'est terminé, l'Olympique de Marseille s'impose à Rennes.
Ils sont partis avec. Ah, oui, parce que par chez nous, à Marseille, on appelle ça une parisienne.
Cinquième victoire en 6 matchs de Ligue 1. L'OM a réalisé une magnifique opération donc ce week-end en battant Rennes 2-1. Les Marseillais creusent pour la première fois un écart avec l'AS Monaco, 5 points, et se rapprochent du Paris Saint-Germain. Seulement 4 points entre les deux ennemis du football français. Les Parisiens comptent tout de même un match en moins avec et avant la réception de Saint-Etienne ce soir. Le titre pour l'OM, est-ce juste un fantasme? C'est notre débat dans les grandes gueules du sport. Dans le coin gauche, la team, non, ce n'est pas qu'un fantasme, représenté par Jérôme Pinault
évidemment,
et Simon Dutin. Dans le coin droit, la team, oui, c'est juste un fantasme. Pascal Duprat, Christophe Cessieux. Avant de débattre, messieurs, nous allons retrouver notre commentateur hier à Rennes, Xavier Grimaud. Salut Xavier, les Marseillais regardent-ils devant ou derrière?
Salut les grandes gueules, salut à tous. Oui, les Marseillais ont joyeusement fêté leur victoire hier soir au Roazhon Park devant leurs 1300 supporters venus les encourager. Et pour cause, l'OM a frappé un grand coup. Alors certes, la victoire est courte, mais l'écart de niveau était quand même grand avec de tristes Rennais et le match maîtrisé, ce qu'a apprécié l'entraîneur Roberto De Zerbi.
C'est la preuve de l'amélioration de la mentalité, car le jeu était difficile ce soir parce qu'on affrontait un adversaire bloc bas très fermé. On a eu la patience pour ne pas perdre le fil du jeu.
Les Marseillais qui sont particulièrement injouables en déplacement avec désormais 8 victoires en 9 matchs à l'extérieur, sûrs de leur force, l'attaquant Nil Mopé.
On a une grande confiance en nous, en notre équipe et en le coach et son staff, même s'il y a eu des moments compliqués, et on aura encore parce qu'une saison c'est long. On a des objectifs et on sait qu'on a la qualité, le travail et la cohésion de groupe pour réaliser une grande saison. Donc nous, on y croit et on y a toujours cru, même dans les moments difficiles.
Avec désormais 5 points d'avance sur le 3e Monaco, l'OM est confortablement assis sur sa place de dauphin du PSG. Et si maintenant, les regards se portaient vers le haut et vers le club de la capitale, le gardien argentin Geronimo Rulli.
Moi, je suis à 4 points du PSG. Ça, c'est ma mentalité. Je veux gagner et je n'ai pas peur de dire. Mais oui, on est très content parce qu'on a fait très bon match. On a gagné le respect de toutes les équipes. C'est pareil à Marseille.
Et même si viser le titre peut sembler illusoire, à la mi-saison, une chose est sûre, Marseille est la seule équipe au contact à pouvoir encore y croire.
Exactement. Merci beaucoup Xavier Grimaud. Le titre pour l'OM, est-ce juste un fantasme? C'est oui à 79%, non à 21%. Simon Dutin, Jérôme Pinault.
C'est normal, les Marseillais ont fêté cette victoire hier, ils ne sont pas réveillés encore, c'est Parisiens qui ont voté là.
Ok, tu commences Jérôme Pinault, pourquoi non, c'est pas juste un fantasme?
Mais parce que je vais pas faire une imitation timide de Roland Courbis, mais si on l'écoute, et c'est quand même notre légende à tous, il y a 4 points d'écart. Il y a 4 points d'écart entre deux clubs.
Il y aura 7 ce soir. Hein.
Il y aura certainement 7 ce soir, ok. Mais tant que l'écart n'est pas définitif et que l'OM joue ainsi, alors évidemment dans les confrontations, la première qui a eu lieu, il n'y a pas eu match, ok, d'accord. Moi je vois autre chose, je vois un Paris Saint-Germain qui va aussi devoir batailler fermement pour se qualifier en Champions League, et si catastrophe il y a cette semaine, il faudra voir la réaction de ce vestiaire. Est-ce que rester mobilisé jusqu'à la fin de saison avec seul et unique objectif la Ligue 1, est-ce que ça va tenir? Et puis
le raisonnement
n'est
pas faux.
Ça reste le football, Pascal. Et c'est pas toi que un groupe ça se tient par une espèce d'émotion commune et ça se regarde droit dans les yeux et Christophe vient de me faire un signe. Je ne peux pas l'exprimer. Mais il faut avoir une bonne paire de coronets pour continuer à se battre quand on est au Paris Saint-Germain, qu'on est venu pour gagner un grand trophée et qu'on vient finalement que pour la Ligue 1. Et j'ai l'impression que de l'autre côté, cette fameuse boule de Noël qu'on vient d'enlever du sapin, les Marseillais ils l'ont. Moi j'ai vu le match hier, j'ai suivi avec beaucoup d'attention en tant que supporter, mais aussi à regarder. C'est de plus en plus beau à voir et de plus en plus efficace. Le deuxième but est juste. Alors effectivement, la comparaison avec Paris Saint-Germain et Rennes, qui était très faible hier, et ça me fait plaisir de le dire en tant que Nantais, Rennes c'était très faible hier. Malgré tout, Il y a quelque chose qui se passe.
C'est incompréhensible que Rennes soit si pauvre, en fait.
Mais c'est pauvre dans le jeu, Pascal.
Oui, déjà. Oui, mais c'est incompréhensible parce qu'il y a de bons.
Et moi, je me dis qu'avec cette équipe-là et cette possible élimination du Paris Saint-Germain en Champions League, ça peut ouvrir des portes à Marseille. En tout cas, ça reste encore possible, et c'est pour ça que tant que c'est possible, ça n'est pas du fantasme.
Je peux répondre,
fantasme, c'est dans l'impossible.
Bien sûr, Pascal, tu peux le découper. Sur
alors, c'est un bon argument, ce que tu viens d'avancer, à savoir, attention, si le Paris Saint-Germain ne se qualifiait pas pour la Champions League, ça, c'est un argument que tu as bien fait de choisir. Cependant, voilà, moi, dans la lignée de ta citation, Jean-Christophe, moi, j'ai toujours envie de rêver. J'ai encore envie de rêver. Donc c'est pour ça que j'ai répondu que c'est un fantasme, si t'aimes mieux. OK? Je veux continuer à rêver jusqu'au 16 mars. C'est la date du match retour PSG OM. Jusque là, OK? Il faut quand même considérer que Paris a 4 points d'avance, meilleure différence de but et un match à jouer supplémentaire contre Saint-Etienne ce soir. Ce qui voudrait dire que peut-être que le Paris Saint-Germain aurait 7 points d'avance plus goal-average favorable à la mi-chance. Championnat. C'est quand même pas rien, malgré tout. Donc, Marseille, moi, j'ai pas de conseils à donner à De Zerbi et à l'OM, mais j'ai l'impression qu'ils sont bien dans leur rôle. Ils sont là, ils progressent après chaque sortie, ils montrent qu'à domicile, ils peuvent, juguler la pression de leur formidable public. Et comme je suis tout pour l'OM, et comme j'ai rien contre le Paris Saint-Germain, comme j'aimerais que le championnat de France soit extrêmement disputé. J'espère qu'après le match retour, je pourrai fantasmer à un titre de l'Olympique de Marseille.
Donc
mais pas avant.
Nous, donc, je suis entièrement sur la ligne de Pascal. Pour une fois.
Merci Christophe.
Tout le monde s'accorde à dire qu'en fait l'OM a une chance cette année.
Non, c'est pas une chance.
Ils sont qu'à 4 points, ils ont certains matchs en plus.
Non mais Simon, c'est qu'on l'espère. Mais moi, je l'espère, mais j'ai du mal à y croire. Je pense que c'est encore du domaine du fantasme.
Jérôme et moi, on vous dit oui, c'est une possibilité, ça peut arriver. Vous nous dites non, ça peut pas arriver.
Il y a des nuances de gris, de noir, de blanc.
La définition que tu donnes à fantasme, mais
le fantasme, c'est de savoir si l'OM est capable de venir battre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes le 16 mars. C'est le moment clé de la saison. Si tu es persuadé que c'est le cas, et ce sera plus du fantasme. Mais pour moi, ça reste du domaine du fantasme, cette victoire.
Avec Pascal Duprat, Lille, vous savez plus de chances ou moins de chances d'arriver que Marseille, Montpellier, Monaco, c'est-à-dire les équipes qui ont réussi à piquer le titre au Paris Saint-Germain depuis que Paris.
Oui, mais c'était en tête déjà. Tu prends Montpellier, c'était déjà en tête.
D'accord. Okay. Oui, à Montpellier, donc vous saviez qu'ils allaient le faire jusqu'au bout.
Non, mais simplement,
ça paraissait plus plausible qu'une équipe.
Simon, je te coupe deux secondes.
Qui semble être confirmé un entraîneur qui justifie sa réputation parce qu'il y a eu des débuts timides, mais après, je crois, c'était face à Auxerre la défaite. Ils ont quand même redressé la barre.
Depuis Auxerre, c'est un carton plein.
Il a trouvé une équipe type. Et laisse-moi terminer, Pascal. Il a trouvé une équipe type, un système de jeu, des mecs qui répondent présents, un joueur qui est au-dessus de la moyenne, c'est Mason Greenwood. Je l'ai dit ici même l'été dernier.
Et Adrien Rabiot aussi. Hein.
Et justement, et derrière, des patrons dans un secteur de jeu où tu as besoin d'avoir Hochberg. Des mecs comme ça. Un Rabiot, un Højbjerg, un Rongier qui est en train de s'installer, c'est-à-dire le mec que tu vois toujours quitter le club et que tu termines en mettant en premier sur la feuille de match au bout d'une demi-saison.
Donc ça, c'est les raisons d'y croire.
Il n'y a pas de Coupe d'Europe, il y a un rythme... qui leur permet de bien se préparer, de pas être trop dans le
en fait c'est tellement
turbulences. Donc moi c'est une possibilité, je te dis pas qu'ils vont être champion, mais si on n'y croit pas cette saison,
pour moi la clé c'est la
Champions League. Moi j'y croyais vachement avant le match aller, quoi. Le match aller a
déjà les
ambitions de tout le monde.
Non, parce que Pascal, le match retour, le problème c'est, enfin moi je fais, alors je évidemment que ça fait partie des choses peu probables, mais ça peut quand même se passer. Moi je pense que, alors déjà ils vont affronter le Manchester City qui va un peu mieux, et une belle blessée comme ça, ils sont plutôt en train de redémarrer, c'est pas une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain déjà. Et la deuxième chose, c'est que moi, je crois beaucoup à ce que ce groupe du PSG, une fois si sorti de la Champions League, les seules choses qui vont les motiver, c'est les grands matchs. Et moi, je crois plus à un Paris Saint-Germain qui va perdre des points sur des matchs accessible pour
et
eux.
Qui va taper Marseille au match retour.
Et qui peut battre le Marseille au parc, mais aller perdre des points de ci, de là, qui ont des équipes qui vont vouloir sauver, des équipes qui vont vouloir
aller. Ils n'ont pas perdu un match.
Non, mais je sais, évidemment.
Vous parlez de Marseille.
Les gars, si le débat c'est est-ce qu'ils peuvent, ben non, ils n'ont pas perdu un match jusqu'à un moment. Évidemment que pour pas gagner le titre, Paris va devoir faire les contre-performances.
Non, mais en fait, moi, j'aimerais qu'on se préoccupe. J'aimerais qu'on parle de l'OM. En fait, moi, ce que j'aimerais pas, c'est que l'OM fasse l'erreur. J'ai envie, comme vous, de voir l'OM en Ligue des Champions. OK? Donc, aujourd'hui, ils sont deuxième. Ils sont en phase avec cet objectif-là. Donc, il faut pas qu'ils qu'ils se crispent, qu'ils se braquent en se disant, tiens, ici, on allait chercher le titre.
Pascal, tu sais très bien que pour aller chercher les objectifs, il faut regarder devant et pas derrière.
Ne surtout pas en parler. Restez tapis dans l'ombre. Continuez à progresser. Continuez à maîtriser le stade Vélodrome. C'est ça aussi qui est important jusqu'au match retour. Essayez de gratter, peut-être qu'ils vont gratter des points grâce à l'énergie que va dépenser le PSG en Ligue des Champions peut-être.
Mais surtout que le match retour,
le 13 mars.
Ouais, c'est 3-4 jours après un éventuel huitième de finale en Ligue des Champions. Donc reste à savoir comment le PSG s'y présentera, ce qu'ils auront fait en Coupe d'Europe, de ce que ça aura laissé dans les têtes, dans les jambes, dans le vestiaire. Donc ça aussi, le fameux match à 6 points, et on verra si l'OM est à 10 points derrière Paris, ce match il vaudra rien. Donc mais juste, à 4 points après juste après une journée,
juste un mot, vous parlez de l'OM, c'est vrai que cette équipe franchement fait plaisir, elle présente vraiment un visage rayonnant, mais n'oubliez pas non plus de parler de l'adversaire. Parce que le Paris Saint-Germain en championnat cette saison, moi je les trouve implacables. Ils roulent sur tout le monde et on l'oublie un peu avant de fantasmer sur la victoire de Marseille. Il faut ça veut dire qu'il faut que ce Paris Saint-Germain s'écroule complètement en championnat.
C'est un groupe de jeunes, très jeunes joueurs qui peut être pour la première fois de l'histoire récente de ce club éliminé de la Champions League, en tout cas du tableau final. C'est un groupe très jeune. Comment vont-ils réagir après cela si ça devait arriver? Moi, ma question, elle est là. J'ai commencé mon argumentaire par...
Justement, parce que c'est
possible
un groupe très jeune.
S'ils se font sortir.
Quand t'es un groupe de mecs expérimentés, tu viens au Paris Saint-Germain uniquement pour gagner la Ligue des Champions.
Ouais, là, tu parles
t'es éliminé. Bon, bah, t'as été complètement
Tu parles des jeunes de ton époque. Les jeunes d'aujourd'hui ont un boulard et un ego. Je peux dire que c'est pas le même qu'il y a quelques années où ils vont se dire, nous, on va gagner des matchs. Aujourd'hui, les mecs, ils sont Paris Saint-Germain. Chacun d'entre eux, ils se regardent dans le vestiaire. Ils sont là pour
la Ligue 1. S'ils perdent la Ligue des Champions, ils abandonnent tout, quoi.
Ils seront peut-être moins mobilisés.
C'est arrivé qu'il y ait une démobilisation totale. Alors même, pas vu la même équipe.
Ils ont quand même fait des contre-performances dans cette phase de poule. Généralement, ils se fâchent le week-end suivant en Ligue 1. Ils montrent à tout le monde que c'est pas le même.
Là, il y a City qui arrive. Clairement, Luis Enrique, j'ai encore entendu en conf de presse hier, dit le match le plus important, c'est Saint-Etienne, c'est un match de Ligue des Champions parce que
il est dans son rôle.
Mais oui, d'accord. Mais le match de
c'est
ce soir,
10 jours.
Le match de ce soir est déjà. Une première répétition et une reprise après la trêve. On va voir déjà. Évidemment qu'ils doivent mettre une tôle à Saint-Etienne comme tous les clubs ont fait. Sauf que dans 10 jours, il y a le match le plus important pour moi de l'ère.
Qui ne sera pas forcément éliminatoire. Même si le PSG PSG n'aura pas encore son destin en main.
Quand ils ont pris une déculottée à Arsenal, on a dit c'est pas éliminatoire. Pour la gagner, il faut quand même aller battre des grands clubs. C'est pas en battant Salzbourg et Leipzig que tu peux espérer gagner la Champions League.
Il ne sera pas forcément coup près, c'est ce que je voulais dire. Laurent nous appelle au 32-16, supporter de l'OM. Salut Laurent.
Bonjour.
Alors Laurent, est-ce juste un fantasme aujourd'hui le titre en Ligue 1
pour en tant que supporter de l'OM?
En tant que ce que tu veux.
Non, en tant que supporter de l'OM, oui, c'est un fantasme. Alors vous êtes les premiers à nous traiter de on s'enflamme à la moindre occasion. On a eu le débat au lendemain de OM-PSG, il fallait tout brûler, il fallait virer De Zerbi. Aujourd'hui, on est sur une saison où on a changé 60% de l'effectif. Ça commence à ressembler à quelque chose. On est derrière le PSG et en Ligue 1, on peut le tourner dans tous les sens, mettre un peu de suspense. Si le PSG joue à son niveau, il n'y a pas match. Donc nous, on est derrière, on fait notre petit bonhomme de chemin. On est deuxième, on a fait un petit écart avec le troisième et le quatrième. L'objectif, c'est la Ligue des Champions. On est bien parti. Après, si le PSG foire, on sera là, il n'y a pas de problème. Mais si le PSG continue comme ça et si en plus ils se font sortir de la Ligue des Champions, Merci, au revoir, et puis à l'année prochaine.
Les supporters marseillais sont devenus vachement raisonnables.
Si tu devais mesurer, c'est où va le monde, hein, j'ai envie de dire. Merci Laurent d'avoir composé le 32-16 et d'avoir été avec nous. Alors c'était un très bon débat, les copains. C'était pas forcément une position facile à défendre, même si vous étiez convaincus. Nous sommes partis à oui, c'est un fantasme à 79%. Eh bien, sachez que nous sommes désormais à oui, à 80%. C'est un fantasme. Belle victoire, donc, de Christophe Cessieux et de Pascal Duprat.
Bravo,
les copains. On va pouvoir raccrocher avec Laurent qui fait n'importe quoi avec son téléphone, mais il y croit en tout cas à cet Olympique de Marseille qui est aujourd'hui deuxième à seulement 4 points, je le disais, du Paris Saint-Germain.
N'oubliez pas le GC Nice non plus qui remonte tapis dans l'ombre. Hein, tapis dans l'ombre.
Ah, bah, c'est une bonne idée, ça. On fera bientôt l'OGC Nice est juste un fantôme.
Peut-il le fantôme de la Ligue des Champions.
Les Niçois tapis dans l'ombre. C'est comme Christophe, il est tapis dans l'ombre.
Exactement. Un rendez-vous à vous donner, c'est demain dans l'émission Rotten sans flamme avec Jérôme Rotten et Jean-Louis Tour. Un événement. Sachez que John Textor sera l'invité exceptionnel de Jérôme Rotten. Une interview enregistrée hier et vraiment,
il balance du promets, très très gros.
Il faut absolument écouter Rotten sans flamme demain à partir de 18h parce que ça tire
ça tire
à balles réelles.
Mettez les casques et les gilets pare-balles si vous êtes un foot français.
Allez, la punchline, Yannick Sinner dans quelques instants, sa suspension est-elle inévitable? À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h33 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Simon Dutin, Jérôme Pinault, Pascal Duprat, Christophe Cessieux. À partir de 11h, on vous parlera de Julian Alaphilippe. Peut-il encore gagner des grandes courses? Lui qui vient de faire sa rentrée médiatique cette semaine, on se posera la question. Et les GG ne sont pas d'accord. Restez bien avec nous, encore beaucoup de choses et une nouvelle séquence à 11h30. Là aussi, vous allez l'adorer. En Australie, il est venu pour défendre son titre, mais aussi son honneur. Quelques mois après, Yannick Sinner est toujours empêtré dans son affaire de dopage contrôlé positif, vous le savez, à deux reprises en mars 2024 au Close Table. Le numéro 1 mondial avait été blanchi en août dernier par le tribunal indépendant de l'ITIA. Une affaire relancée en septembre par l'AMA, l'Agence mondiale antidopage. L'organisation demande une suspension d'un à deux ans pour Sinner. Et vendredi, l'Italien a appris qu'il était convoqué par le tribunal arbitral du sport en avril prochain. À chaque conférence de presse, évidemment, Sinner doit se défendre. C'était encore le cas vendredi, juste avant ses débuts à l'Open d'Australie. C'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
I don't think I have to answer this, to be honest.
Je ne crois pas que je dois répondre à ça. Comment je fais pour passer outre? Il ne s'agit pas de mettre cette histoire de côté et de se dire qu'on n'y pense plus. Dans mon esprit, je sais exactement ce qui s'est passé et c'est comme ça que je fais abstraction. Je n'ai rien fait de mal, c'est pour ça que je suis ici. C'est pour ça que je continue à jouer. Je ne veux pas répondre à ce qu'a dit Nick Kyrgios ou les autres joueurs. Je pense que le plus important, c'est que mon entourage me soutienne car ils savent exactement ce qu'il s'est passé. C'est tout.
Convoqué par le TAS, Yannick Sinner, sa suspension est-elle inévitable? Oui ou non? Simon Dutin.
Je ne sais pas, Jean-Christophe. Je ne sais pas. Oui.
Oui, très bien. Oui. Christophe Cessieux.
Je ne sais pas non plus, Jean-Christophe. Je n'arrive pas à lire dans ma boule de cristal. Mmh. Je pensais qu'elle était évitable et en fait,
plus j'y pense,
qu'il va se faire.
Plus j'oublie.
On avance, Sherlock Holmes. Pascal Duprat.
Non.
Non.
Jérôme Pinault. Elle est inéluctable.
Jérôme.
Oui, elle est
inévitable.
Non, mais c'est la question.
Elle est très simple. Sa suspension est inévitable.
Il va se faire suspendre, sa suspension est inévitable.
Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est difficile. D'accord. Est-elle inévitable? Donc, oui, enfin, bref.
Oui, on critique très bien les questions du maître de cérémonie. J'ai bien compris le truc. Justement, j'ai besoin d'aide. Je vais aller voir Eric Salio en direct de Melbourne.
Il a compris la question, Eric, ou non?
Eric, la question est simple, non?
Oui, le dossier est pas simple, mais la question est simple.
Le dossier est pas simple, mon cher Eric. C'est vrai que depuis sa conférence de presse de vendredi, eh bien, hasard du calendrier ou non, la date de son audience a été rendue publique.
Ah, c'est un hasard. Moi, c'est il y a deux jours, le site internet du tribunal arbitral du sport de Lausanne a publié ses prochaines audiences. Alors, il y a de la pétanque et il y a du tennis. WADA versus Sinner, ITIA et ITF. Ce sera donc les 16 et 17 avril, soit plus d'un an après les deux contrôles positifs de l'Italien. C'était durant le tournoi d'Indian Wells.
Le tennis ressemble de plus en plus au cyclisme, les gars. Attention, c'est départ de la saison, grand chelem, départ du Tour de France, les affaires tombent, on est en train de se copier les uns les autres.
Vas-y, Eric.
C'est avec un sourire.
Et pas que sur ce point-là.
C'est vrai. Autant vous dire que après son match contre Jarry, ce sera demain, bah, il sera évidemment interrogé. S'il était blanchi en août par l'ITIA, International Tennis Integrity Agency, l'agence mondiale antidopage a fait appel et va soumettre le dossier au tribunal arbitral du sport. Elle va axer son offensive sur le fait qu'un joueur est responsable de ce qu'il ingère et qu'il y a eu une négligence. On sait que Sinner a expliqué que le produit interdit s'était retrouvé dans son organisme à la suite de massages de son kiné, lequel avait soigné une coupure au doigt en prenant un spray anesthésiant confié par le préparateur physique. Ouf. Normalement, ce sont trois arbitres, c'est leur nom officiel, hein, les avocats, quoi, qui vont déterminer donc l'avenir de Yannick Sinner. Et bon courage à eux et bon courage à nous.
Merci beaucoup Eric Salio pour ces précisions. Tu restes avec nous pour ce débat. Sa suspension est-elle inévitable? C'est oui pour toi, Jérôme Pinot.
Oui, c'est oui pour moi parce que à partir du moment où la WADA Lama fait appel, c'est déjà un signal fort de cet organisme-là, l'Agence mondiale antidopage, de contrer les petites instances entre amis, donc l'ITIA et l'ITIA. Pourquoi ? Parce que l'AMA a étudié, comme disait Eric, un point du règlement très simple. On doit être responsable quand on est athlète. Et la petite idée de la crème, machin, bidule, passée par le kiné, je crois que l'AMA, ça passe pas. Et il faut savoir une autre chose, c'est que le TAS et le tribunal arbitral du sport, c'est le point final du chemin. Aucun appel n'est possible après décision du TAS, si ce n'est à la Cour fédérale suisse qui n'étudiera uniquement le process et non pas le fond.
Cependant, ça peut pas être inéluctable puisque le TAS a été saisi par la main.
Le TAS a été saisi par la main.
Il faut attendre que le joueur soit auditionné. Donc, vous pouvez pas dire que c'est inéluctable.
La main conteste profondément le fait.
Et puis alors?
Que Sinner ait pu être en possession de ce produit dans son corps et qu'il n'ait pas contrôlé et eu le contrôle sur la possibilité que ce produit arrive dans son corps. Si l'AMA fait appel au TAS, c'est qu'ils ont quelques arguments à faire valoir et qu'ils ont
alors,
bien.
Là, t'es
bien
en train de me dire qu'il faudrait regarder les précédents. Chaque fois que l'AMA fait appel au TAS, à ce moment-là, le TAS.
Quand l'AMA se saisit d'une affaire
en
de
général,
dopage,
donc.
De dopage. C'est pas
mais
le cas
ça,
dans les
pas,
procédures
c'est pas
juridiques
convaincu
mais
que
là...
ce soit un dopage voulu. Non mais tu peux dire
oui,
ce
mais
que tu veux quand même.
C'est politique mais Pascal.
Franchement mais j'aimerais qu'on soit sensé tous autant que nous sommes. Bon, non, il a été blanchi en quelque sorte
mais retiré du titre qu'il a gagné avec le produit dans le corps, il y a quand même un problème.
Non mais
laissez poursuivre la démonstration.
C'était quand même des quantités infinitésimale.
Comme okay. Contador
avec
son
steak. Non, Pascal.
Voilà. Non, mais
Contador, clombutérol, c'est 0-0-0. Il a très bien dit. Alors que tout le monde le sait et tout le monde suspectait que ça venait d'une transfusion sanguine. Arrêtez avec le taux qui est minime.
Donc,
c'est faux.
En fait, j'ai l'impression qu'on mélange beaucoup de choses. Il y a peut-être deux poids, deux mesures en tennis. Ça ne m'appartient pas.
Avec les
juger.
Autres sports, peut-être.
Toujours. Mais également au tennis.
Il y a eu des précédents où
on a été beaucoup plus ferme avec certains qu'avec le champion italien. Mais cela dit, l'AMA, elle entame un recours auprès du TAS. Vous pouvez pas dire que la sanction est donc par conséquent inéluctable. Ça voudrait dire que c'est des pitres ceux qui vont juger et qui siègent au tribunal du sport. Laissez-les, faire leur plaidoyer. Laissez-les écouter le joueur et ensuite on verra quelle va être la décision. Mais pour autant aujourd'hui tu peux pas dire que Sinner va être suspendu.
Non, on dit pas que c'est des pitres, Pascal. Au contraire, on juge que l'AMA, qui est une instance internationale et qui est la référence en la matière, déjuge une instance qui
sert à ça. Cela dit, l'AMA n'a pas autorité, autrement.
Mais l'AMA a envie de se faire l'ITIA, Pascal. C'est un choix politique. L'AMA ne supporte pas, et ça se comprend d'ailleurs, que le tennis est cette instance personnelle, finalement, qui juge entre soi les tennismen qui sont responsables ou non de dopage. Et l'AMA ne veut pas que ce genre de contre-pouvoir existe. Et donc, s'ils ont
décidé de d'attaquer Sinner, c'est qu'ils ont des billes et que ils vont sans doute aujourd'hui vu la médiatisation de du truc.
Sans doute
des billes
ou
pas forcément.
Employez le conditionnel. Donc rien que dans vos réponses, ça veut dire que c'est pas inéluctable.
Oui, Simon, oui, la justice.
Simon.
Que l'Agence mondiale antidopage ait des billes ou pas, je pense que elle veut souligner le fait qu'il y a quand même du bazar dans la façon dont la Fédération internationale de tennis gère ses affaires. Voilà, on n'y comprend rien. En effet, il y a cet organe indépendant. Est-ce que l'AMA a envie de se farcir le monde du tennis? Je ne pense pas. Mais ça soulève en tout cas beaucoup de questions. Parce que quand tu vois les réactions des différents joueurs ou ex-joueurs, il y en a qui sont pro-Sinner, il y en a comme Kyrgios qui le désingue. Ça pose la question des protocoles, ça pose la question des produits interdits et en effet des recours disponibles. Est-ce qu'il va être suspendu? On n'en sait rien. Est-ce qu'il doit être suspendu? Tu t'en reviens toujours à l'exemplarité. Il est en train de devenir le phare du tennis mondial, d'une discipline universelle. Donc,
justement,
a priori,
il va prendre quelques
mois. Mais quand tu vois que personne n'est vraiment aussi catégorique que ça sur le sort qui va être réservé à un Sinner qui, à 23 ans, je pense, en vertu des quantités, en effet, il y a quand même toujours, Jay, tu peux pas faire l'économie du fond des affaires. Est-ce que Sinner, il a besoin des quantités minuscules qui ont été trouvées pour battre et accomplir ce qu'il a accompli l'an dernier? A priori, non. Je veux dire, quel est son intérêt? On en revient toujours à.
Non, mais c'est pas ça que je dis, Simon, c'est qu'on se base sur la quantité infime. Et la quantité infime est-elle celle qui a été ingérée par son corps ou est-elle un résidu de quelque chose de plus
C'est la preuve, selon moi, qu'il faut mettre de l'ordre dans les protocoles, dans la façon dont les gens sont sanctionnés. Et parce que je ne sais pas combien de mecs se sont vraiment dopés en tennis ces 30 dernières années, alors qu'on n'avait pas, on en revient toujours à la même chose, les moyens de le contrôler, les moyens de le mesurer, alors, et donc ils n'ont jamais été sanctionnés.
Rapidement,
je pose une autre question, je ne sais pas si Eric est encore là, mais alors pourquoi attendre le mois d'avril, puisqu'ils sont tous intimement convaincus qu'il a.
Il faut instruire, Pascal. La justice a besoin de
temps. Pourquoi n'en parler qu'en août? Enfin, je sais pas. Non, je croyais que tu parlais de parce qu'il a été contrôlé en mars. Ça n'a été rendu public qu'en août. Là encore,
C'est ça qui est gênant. C'est qu'ils aient voulu. Le tennis fait ça un peu dans l'ombre.
Patate chaude, numéro un mondial.
Tu décides de ne pas mettre le sportif convaincu de dopage en avant, à la différence de ce que fait l'athlétisme, par exemple, qui, elle, dès qu'il y a un contrôle positif, met l'athlète
devant le. L'ITIA, d'ailleurs, déclare cela. Christophe dit pourquoi pas.
Nous,
pas
on veut protéger.
Tout de suite révéler
on veut
protéger l'article.
Je voudrais juste terminer parce que tu t'es bien renseigné et tu as eu quelques sources au sein du TAS. Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui sur ce dossier?
Les sources que j'ai me disent que l'AMA a fait appel dans ce sens de contredire ces petites instances et essayer de reprendre le plein pouvoir sur ces soucis-là, et que devant le TAS, peu de chance à lui, de tout numéro un mondial du tennis qu'il est, peu de chance à lui qu'il s'en sortira.
De s'en sortir. Ok. Bon, merci pour cette précision. Eric Salio est toujours avec nous en direct, évidemment, de l'Open d'Australie. Un peu de jeu, un peu de tennis quand même, hein. Arrêtons le dopage et mettons l'autre côté. Il y a un autre Français sur le court actuellement.
Ouais, je voudrais juste dire que je crois que Stephen Brun reçoit Richard Gasquet, qui était passé par le TAS. Donc, ce sera peut-être intéressant d'avoir l'avis de Richard Gasquet sur le sentiment que son audition avait donné.
C'est dans Stephen Brunch à partir de 13h, exactement.
Absolument. Richard Gasquet sera invité. Donc, lui, il est passé par le TAS. Et le TAS lui avait donné raison. Attention, hein. C'était juste une petite précision. Il y a beaucoup de Français sur les cours actuellement. Hugo Humbert mène 6-5 face à Gigante. Lucas Pouille est à l'échauffement sur la Rod Laver Arena face à Sacha Zverev. Chloé Paquet est menée 4-2 par une Espagnole Buxa. Et Quentin Alice est à 3 partout face à Walton, un Australien.
Parfait, merci beaucoup Eric Salio. On te retrouve un petit peu plus tard. 10h46, on se retrouve dans quelques instants. Les GG contre-attaque. Vous avez choisi un débat, mais qui est l'élu? On va voir, c'est pas Zidane, hein. C'est l'une des GG, évidemment. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h49 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Jérôme Pinault, Simon Dutin, Christophe Cessieux, Pascal Duprat. Avant les GG contre-attaque, sachez qu'à partir de 11h, on parlera de Julien Alaphilippe. Peut-il encore gagner de grandes courses? Mais tout de suite, direction Adèle Bodden pour la première manche du slalom géant. On retrouve Arnaud Souk. Arnaud, la course a été interrompue il y a quelques instants, mais Alexis Pinturo va bientôt se présenter dans le portillon de départ. Bonjour Arnaud.
Absolument. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour à toutes et à tous. C'est Stéphane Brandsteiner qui est sorti de la piste, d'où cette petite interruption, rien de grave pour l'Autrichien. C'est pour l'instant le Suisse Loïc Meillard qui domine devant le Norvégien Henrik Christoffersen et Marco Odermatt, le grand favori du jour qui pour l'instant pointe en troisième position à 34 centièmes. Les Français, on les attend 17, 18, 19. Alexis Pinturo, Thibaut Favreau et Léo Anguenot s'élanceront d'ici une dizaine, 10, 12 minutes à peu près. Donc ils vont partir en enfilade et on espère notamment qu'Alexis Pinturo puisse enfin revenir à son meilleur niveau dans cette discipline qui l'attend sacrée par le passé.
Et on suivra évidemment la première manche d'Alexis Pinturo dans quelques instants. Merci Arnaud.
RMC, les GG contre-attaque.
Alors, quatre propositions de débat ont été faites ce matin par les GG. Vos quatre propositions ont été soumises au vote sur le compte X des grandes gueules du sport. Malheureusement, la place des artistes dans le sport moderne, c'était un très bon débat. Ça méritait même c'était même un point philo d'ailleurs. Deux heures, c'est copie double. C'est 10% pour notre antithèse, ami synthèse, Simon Dutin, quatrième place.
Contrat rempli.
Guirec Soudé du Vendée Globe. Son histoire incroyable, ça n'a pas pris malheureusement, alors que j'adorais ce moment.
Allez,
17% pour toi, mon cher Christophe. Ouais, ouais. La deuxième place pour chez Alpine, Calapinto qui vient d'être recruté, coup de maître ou guerre assurée, c'était la proposition de Pascal Duprat. 35%, tu t'es vraiment bien battu, mon cher Pascal, bravo à toi. La victoire revient à Jérôme Pinault. 37%. Les équipes françaises font-elles encore partie du gratin mondial? Évidemment, on parle de cyclisme.
J'en suis assez fier.
Eh ben, vas-y, tu peux nous mettre ce sujet sur le tapis, on t'écoute.
Fais gaffe, Marc Madiot, t'écoute.
Non, mais justement, je veux beaucoup parler de Marc Madiot, puisque la saison redémarre cette semaine en Australie avec un plateau formidable, avec des jeunes coureurs qui arrivent, avec des jeunes coureurs français qui sont là-bas. On pense à Paul Lapeyra, notamment, qui est le champion de France en titre, qui débute sa saison là-bas. Et cette semaine, en faisant le tour de toutes les présentations, vous savez, c'est la période des nouveaux maillots, des effectifs, tout le monde est à Calpe ou près de Valence là-bas en stage, et chacun bat des records, fait des montées. Et j'ai regardé un peu tranquillement les effectifs de nos équipes françaises, parce que c'est d'abord ça qui m'intéresse. Et je me suis fait la réflexion que malheureusement, l'effectif de ces équipes-là ne pouvait pas, selon moi, rivaliser avec les plus grandes. Quand on voit l'effectif de l'équipe UAE, quand on voit l'effectif de l'équipe Visma-Lisebike, quand on voit l'effectif des grandes équipes du peloton, on reprend l'effectif de Groupama, Decathlon AG2R, la mondiale qui a fini sixième du rang mondial cette année. Avec une saison incroyable, va-t-elle pouvoir rééditer cela? Et surtout, va-t-elle pouvoir aller jouer plus haut? Parce que c'est là qu'on attend ces équipes, nos équipes françaises, c'est d'aller jouer avec les grands sur les grandes courses, sur les grands événements. Eh bien non, ma réponse, elle est non, parce que on a malheureusement pas une seule équipe constituée pour briller à la fois sur les classiques et à la fois sur les grands tours. Et ce qui fait le plus mal, je crois, c'est d'entendre les différentes interviews des coureurs partis. Alors, je commence par Lenny Martinez qui dit qu'il attend d'avoir un peu plus de soutien dans l'équipe dans laquelle il est, chez Bahrain Merida, pour pas la citer. On entend Lorenz Pitti, qui a quitté la Groupama FDJ, qui est là l'un des très grands espoirs sur les classiques, et qui dit que pour aller jouer avec les très grands, c'est-à-dire les Van Der Poel, les Pogacar et les Van Aert, il fallait qu'il change d'équipe. Et ça m'interpelle.
Ouais, il pense vraiment qu'il va rivaliser avec eux en la FDJ.
Si tu étais Lorenz Pitti, je te demanderais pourquoi. Pourquoi en changeant d'équipe, tu penses que? Quelle est la raison? Pourquoi tu changes d'équipe pour aller jouer plus haut?
C'est mon qu'est-ce qu'il nous répondrait? C'est ça qui nous importe, toi qui es initié.
Il nous répondrait pas ce que j'ai envie d'entendre, mais il nous répondrait que les moyens sont plus grands, médecins un peu moins regardants, certains. On joue plus avec la limite.
On va parler de Alaphilippe tout à l'heure, je te poserai une question.
Et j'ai la même réponse. Donc, c'est ça qui me chagrine le plus. C'est pourquoi.
Ok, mais le déclin date pas de cet hiver.
Il y a pas de déclin, il y a juste une stabilité des résultats des équipes françaises qui n'arrivent pas à retenir leur talent.
C'est que
là-haut, ça s'envole.
Là-haut.
Et on a pourtant chaque année des champions du monde, des champions d'Europe dans toutes les catégories jeunes.
Ok, Christophe, sur ce.
Je partage en partie le pessimisme de Jérôme, même si effectivement la formation Décathlon AG2R l'année dernière, avec des moyens qui sont pas les mêmes que ceux de UAE ou Visma, a réussi quand même à s'accrocher, sauf peut-être pendant le Tour de France. Et on a jugé leur saison à l'aune du Tour de France. Alors qu'effectivement, ils sont plantés dans le Tour de France, mais derrière, ils ont rivalisé quand même sur la plupart des courses, sauf les grandes courses. Les grandes courses, aujourd'hui, elles sont réservées à 3-4 mecs. Et il y a 3-4 mecs qui peuvent s'imposer, et c'est tout. Et c'est ça qui est inquiétant. Et effectivement, ces 3-4 mecs font partie des 2-3 équipes en place, quoi. Donc, tu peux pas rivaliser en termes de budget.
Juste, je voudrais écouter Simon qui a aussi son point de vue sur le cyclisme. Est-ce que tu adhères au discours de Jérôme ou pas?
Bah, le pessimisme, il est structurel, quoi, systémique. On est habitué. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on attend des équipes françaises? Moi, je les suis, je les encourage, mais bon, mon plaisir avec les équipes françaises, je me souviens de la victoire de Turgis, quoi, au dernier tour. Je pense que c'est une des plus belles émotions que j'ai vécues ces dernières années. Bon, j'attendais pas qu'une équipe française gagne le Tour de France, mais si tu veux, je t'en parle, j'ai les poils qui se dressent encore, en effet. Mais bon, j'ai pas l'impression que le paysage ait tant changé que ça. Quand j'ai commencé à suivre le Tour de France, mon grand-père m'a emmené. Bon, t'avais la Banesto, la Mapei, la Honce. Je veux dire, c'était pas, il y avait Jalabert à la Honce, mais je veux dire, on n'était pas invité, on n'est pas plus invité. Moi, je trouve que le travail de nos équipes françaises, il est plutôt à saluer. On se bat avec nos moyens, effectivement. Marc a eu l'occasion de nous dire que bon, quand un Martinez, on lui propose un saladier dans une équipe étrangère, bah lui,
c'est un beau saladier. Hein. C'est un très beau saladier.
Il fait le choix de ne pas s'aligner. Je trouve que c'est pour autant, ça ne fait pas gagner davantage.
C'est très plus de soutien, non mais le mec, il annonce à mi-saison qu'il va s'en aller. Il pense qu'il va être soutenu par son équipe.
Moi, je trouve qu'ils font du beau boulot, qu'ils se battent avec leurs armes, et je suis fier du travail effectué par les équipes françaises. Quoi.
Gardez quelques billes. Dans quelques instants, on va reparler de cyclisme avec Julien Alaphilippe. Est-ce qu'il peut encore gagner de grandes courses? Et si vous avez des choses à ajouter sur ce débat passionnant, on en parle dans quelques instants dans les GG du sport. Et une grande nouveauté à 11h30, il y aura aussi le débat caché. Restez avec nous, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.